VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 31 décembre 2015. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Le premier tour des élections présidentielles et législatives en Centrafrique s'est déroulé dans le calme.
Je suis content d'avoir voté parce que nous voulons un changement radical pour que nous puissions vaguer à nos occupations normalement.
Salif Diallo a été élu président de l'Assemblée nationale au Burkina Faso.
Le but est dans chaque pas. Le but qui est la défense des intérêts supérieurs de notre pays.
Sécurité maximale dans les grandes capitales européennes à l'approche des fêtes de fin d'année.
Enfin, l'acteur américain Bill Cosby a été inculpé mercredi d'agression sexuelle.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine, les électeurs se sont massivement rendus aux urnes ce 30 décembre, un scrutin qui s'est déroulé sans aucun incident dans l'ensemble du pays. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Les résultats du scrutin de ce 30 décembre sont en cours d'acheminement au centre de traitement des données de l'ANU, l'organe en charge des élections dans le pays. Plusieurs bureaux de vote ont fermé tard dans la soirée d'hier en raison de leur ouverture retardée par les difficultés liées à l'acheminement du matériel électoral. Cette situation a fortement joué sur les opérations de dépouillement faites lentement avec des lampes torches ou des téléphones portables. Il est encore trop tôt de donner les premières estimations car aucun bureau de vote n'était en mesure d'afficher à temps les procès-verbaux. Les résultats partiels du scrutin présidentiel sont attendus dans les 6 prochains jours selon le code électoral avant la proclamation finale par la Cour constitutionnelle de transition dans les 15 jours suivant la date du vote. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République du Congo, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars prochain. Le gouvernement congolais a avancé la date sur décision du président congolais Denis Sassou Nguesso. Les précisions d'Eddie Sango.
Le Conseil des ministres a décidé de convoquer le corps électoral le dimanche 20 mars 2016 pour le premier tour de l'élection du président de la République sur toute l'étendue du territoire national, indique les comptes rendus d'un Conseil des ministres tenu hier à Brazzaville. Le président Sassou Nguesso avait annoncé dans un discours devant les congrès le 22 décembre que la date de la présidentielle sera avancée au premier trimestre de 2016. Mais il n'a donné aucune raison de ces changements de date. La présidentielle devait plutôt avoir lieu en juillet, selon la nouvelle constitution votée au référendum du 25 octobre dernier, que l'opposition a boycotté dans sa majorité. Le gouvernement a soumis au Parlement l'adoption d'une loi électorale qui prévoit, entre autres, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, CENI, qui figure parmi les nombreuses exigences de l'opposition. La nouvelle constitution a fait sauter les deux verrous interdisant à M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat présidentiel en 2016. La limite d'âge est celle du nombre des mandats. Âgé de 72 ans, M. Sassou Nguesso, qui a passé 31 ans à la tête du Congo, n'a toujours pas annoncé sa candidature pour la présidentielle, mais ses partisans n'y s'en cachent pas.
Au Nigeria, le gouvernement est prêt à négocier avec le mouvement islamiste Boko Haram la libération des 200 jeunes filles de Chibok. Le président Muhammadu Buhari a précisé qu'ils étaient à la recherche de contacts crédibles au sein du mouvement terroriste qui puisse confirmer que les jeunes filles sont toujours en vie.
Après l'investiture du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, la mise en place des institutions du Faso se poursuit avec notamment l'élection de Salif Diallo au poste de président de l'Assemblée nationale. Salif Diallo est vice-président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti majoritaire. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
Le nom de Salif Diallo, vice-président et directeur de campagne du Roch Kabore, était fortement cité. Eh bien, cela a été confirmé ce mercredi. On écoute René Lompo, le doyen d'âge qui a présidé la session d'ouverture de l'Assemblée nationale.
Soso Adama, 43 pour. Diallo Salifou, 78 pour. Donc, le député Diallo Salifou est élu président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale, à l'endroit des députés, a fait cette adresse préventive.
Le but est dans chaque pas. Aujourd'hui, c'est un pas que nous effectuons. Et ce pas doit tendre vers le but qui est la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Dans la séparation des pouvoirs, notre institution a pour mission de voter les lois, de lever l'impôt et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Si notre auguste assemblée venait à se démarquer des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste que nos devanciers.
Le dernier acte pour le retour à une vie constitutionnelle normale au Faso reste la nomination d'un premier ministre pour la formation du gouvernement. Là aussi, le nom de Bissiri Joseph Sirima, ancien patron du MCA Burkina, revient en boucle. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont autorisé la prorogation jusqu'au 31 mars de l'état d'urgence déjà instauré à deux reprises depuis l'attentat djihadiste contre l'hôtel Radisson de Bamako en novembre dernier. Cette prorogation a été votée en Conseil des ministres en raison des menaces graves sur la sécurité des personnes et de leurs biens, selon un communiqué officiel.
Les États-Unis ont exhorté l'Éthiopie à libérer tous les journalistes emprisonnés et à cesser d'utiliser sa loi controversée contre le terrorisme pour faire taire la dissidence. Dans un communiqué, Washington s'est déclaré profondément préoccupé par les récentes arrestations de journalistes en Éthiopie. Samedi, l'ONG Human Rights Watch avait-elle rapporté qu'au moins 75 personnes avaient été tuées ces dernières semaines par les forces de sécurité éthiopiennes dans la région d'Oromia lors de manifestations contre un projet gouvernemental d'expropriation des terres.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Face aux menaces terroristes qui pèsent sur les fêtes du Nouvel An, Bruxelles a décidé d'annuler tous les événements. Dans plusieurs pays, les forces de l'ordre ont été placées en alerte maximale, comme en Turquie, où un attentat suicide aurait été déjoué à Ankara. Les mesures de sécurité ont aussi été renforcées dans d'autres pays, comme en Autriche et en Russie, après les attentats djihadistes du 13 novembre à Paris, ville qui sera placée sous haute protection policière jeudi soir.
L'afflux record de réfugiés en Allemagne est une chance, a estimé la chancelière Angela Merkel dans son allocution du Nouvel An, mettant en garde contre ceux pleins de haine qui veulent exclure les autres. L'allocution enregistrée hier sera diffusée ce soir à la télévision.
En Syrie, au moins 16 personnes ont été tuées et 30 blessées hier soir dans des attentats contre trois restaurants de Kameshli, une ville du nord-est du pays. Selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique.
Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre des entreprises et individus qui auraient œuvré, notamment en Iran, au développement du programme de missiles balistiques de Téhéran. Affirme le Wall Street Journal, il s'agirait d'une première depuis l'accord sur le programme nucléaire conclu le 14 juillet à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran.
L'acteur américain Bill Cosby a été inculpé mercredi d'agression sexuelle en rapport avec un incident qui aurait eu lieu en 2004. C'est la première fois qu'une des nombreuses accusations dont il faisait l'objet depuis plus d'un an aboutit à une action judiciaire. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
Le célèbre acteur a été présenté mercredi à un juge de Pennsylvanie qui l'a inculpé d'agression sexuelle avec circonstances aggravantes. Une qualification se rapprochant de celle du viol dans d'autres systèmes judiciaires. Cosby, qui est âgé de 78 ans, n'est resté à l'intérieur que quelques instants, le temps de déposer 10% de sa caution fixée par la justice à 1 million de dollars, a indiqué à l'AFP un fonctionnaire du tribunal. Une nouvelle audience a été fixée au 14 janvier. L'acteur a dû laisser son passeport à la justice et s'est rendu dans un commissariat où des agents ont pris ses empreintes digitales et sa photo, a précisé l'employé du tribunal. La victime présumée est une ancienne employée de l'Université Temple. Bill Cosby, qui a longtemps incarné le père idéal dans la série « The Cosby Show », lui aurait fait prendre des pilules qui l'auraient immobilisé avant de l'agresser sexuellement dans son domicile près de Philadelphie. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 25 000 dollars d'amende s'il est jugé coupable.
Intempéries aux États-Unis, les eaux du fleuve Mississippi dans le Missouri ont déjà dépassé de 4 mètres le niveau de débordement en certains points et devraient encore gonfler de plus de 2 mètres de hauteur avant d'atteindre le pic de crue vendredi. Selon le service américain de météorologie, la montée de ces eaux boueuses a déjà englouti plusieurs bourgades et coûté la vie à au moins 20 personnes.
œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Écho, ce matin avec Chérubin Dorsil.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a signé hier la loi de finances 2016, marquée par la chute des prix des hydrocarbures, qui a fait perdre au pays plus de la moitié de ses revenus. C'est ce que rapporte l'agence officielle APS. Selon ses nombreux détracteurs, aussi bien dans les rangs de l'opposition que ceux de la majorité parlementaire, cette loi, adoptée fin novembre par le Parlement à l'issue de débats houleux, comporte des articles jugés antisociaux et antinationaux, indique l'AFP. L'Algérie tire plus de 95% de ses recettes extérieures du pétrole. Or, le pays a perdu près de 50% des revenus tirés des hydrocarbures en 2015. 6 ministres venus du Soudan, d'Égypte et de l'Éthiopie ont échoué au cours de 2 jours de pourparlers à Khartoum dans leurs efforts de parvenir à un accord sur l'opportunité d'arrêter ou de poursuivre les travaux de construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie, indique l'agence panafricaine de presse. Maurice, les Seychelles et l'Algérie figurent parmi les 54 pays qui mènent le classement du programme des Nations Unies pour le développement chaque année. Thème de référence choisi cette année, le travail au service du développement humain. L'indice de développement humain de l'Algérie, par exemple, souligne le journal Le Point, n'a cessé d'augmenter ces dernières années, permettant au pays de se hisser 83e sur le plan mondial. 14 pays africains figurent parmi les pays moyennement développés, parmi lesquels la Tunisie, 5e, le Gabon, 8e, le Maroc, 11e ou encore le Congo, 13e. Le rapport sur le développement humain dévoile les pays où les populations profitent d'une meilleure qualité de vie.
Voilà pour la Minute Écho. Merci, Chérubin. Maintenant à notre page sport avec John Lyndon. Bonjour John.
Bonjour Claire.
Les autorités judiciaires suisses ont communiqué à la justice américaine les premiers éléments de preuve dans l'enquête sur les allégations de corruption au sein de la FIFA.
Il s'agit essentiellement de documents bancaires qui seront utilisés contre les hauts responsables de la FIFA accusés de corruption. La justice suisse a gelé 80 millions de dollars d'avoirs dont 13 comptes bancaires à la requête des États-Unis, qui ont inculpé de corruption 41 responsables, anciens responsables de la FIFA et entités.
Et toujours pour ce dossier FIFA, une entrave dans le procès ici aux États-Unis, dont la justice américaine avait demandé l'extradition.
L'ancien vice-président de la FIFA, Eugenio Figueiredo, a été arrêté au mois de mai en Suisse, mais il se trouve que c'était à la requête d'un procureur de l'Uruguay, son pays, en rapport avec une affaire de fraude et blanchiment d'argent datant de 2013. Du coup, son extradition vers New York s'en trouve compliquée, Figueiredo ayant affirmé que le dossier judiciaire dans son pays doit primer sur celui des États-Unis.
Et pour éradiquer la corruption dans les rangs de la FIFA, l'un des principaux candidats à la présidence de la Fédération internationale se propose de scinder celle-ci en deux.
Dans une déclaration publiée mercredi, le président de la Confédération asiatique de football, Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa de Bahreïn, veut créer 2 entités séparées pour gérer le football planétaire. FIFA Football s'occuperait exclusivement du sport et FIFA Business traitera des questions financières et commerciales.
Le président du Comité international olympique est lui aussi préoccupé par l'impact de la corruption et du dopage sur le sport mondial, John.
Dans un message du Nouvel An publié sur le site du CIO, Thomas Bach dit qu'un coup d'œil aux événements des derniers mois montre la nécessité d'une urgente réforme pour préserver la crédibilité des organisations sportives et des athlètes intègres. Concernant les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Thomas Bach a souligné que les derniers mois des préparatifs seront difficiles, mais il s'est dit confiant que le Brésil accueillera ses hôtes avec enthousiasme.
Et je termine avec les résultats des matchs de la NBA, le championnat de basketball américain, disputé hier soir, John. Les Los Angeles Clippers contre les Charlotte Hornets, 122 à 117. Orlando Magic contre Brooklyn Nets, 100 à 93. Los Angeles Lakers contre Boston Celtics, 112 à 104. Les Raptors de Toronto contre les Wizards de Washington, 94 à 91. Les Bulls de Chicago contre les Pacers d'Indiana, 102 à 100. Les Timberwolves du Minnesota contre les Jazz de l'Utah, 94 à 80. les Mavericks de Dallas contre les Warriors de Golden State 114-91 et les Spurs de San Antonio contre les Suns de Phoenix 112-79. Morin-Gibourg, toujours avec vous sur VOA Afrique. Nous passons maintenant au dossier du jour. Déchirée par des violences entre communautés depuis 3 ans, la République centrafricaine va bientôt avoir un nouveau gouvernement. Les quelques 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes hier mercredi pour la présidentielle et les législatives. Une étape cruciale pour mettre un terme à la transition dans le pays. Retour sur cette échéance importante avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Il y a encore quelques mois, personne n'aurait pu imaginer des élections dans ce pays dont la grande partie est toujours sous contrôle des groupes armés. Ce 30 décembre, comme par enchantement, les plus de 2 millions d'électeurs centrafricains ont pu voter sur l'ensemble du pays et dans le calme. À Bangui, tous attendent un changement radical à l'issue de ces élections.
Oui, je suis content de voter, car c'est un devoir pour moi de voter. Mais j'attends un changement radical pour que la RCA se développe normalement.
Je suis content d'avoir voté, parce que nous voulons un changement radical pour que nous puissions vaguer à nos occupations normalement.
Quels que soient les résultats, je dois être fier pour que mon pays soit développé davantage.
Ça fait 3 ans en Soudan, notre pays, il y a des tueries et puis ça ne va pas. Donc il faut un changement pour que nous soyons heureux dans notre pays.
Aucune violence n'a été rapportée sur l'ensemble du territoire centrafricain. Toutefois, le scrutin est entaché de nombreux dysfonctionnements allant du déploiement très en retard du matériel électoral dans les bureaux de vote au manque de certains documents, à l'exemple des bulletins de vote pour les législatives, de certaines lettres alphabétiques disparues de la liste électorale. Conséquence, certains candidats à la députation demandent purement et simplement l'annulation des législatives. Des difficultés relevées par Souleymane Dene Ndiaye, chef de mission de l'Observation électorale de l'Union africaine pour ce scrutin.
Cette forte mobilisation est le témoignage que les populations centrafricaines voudraient en finir avec la transition et passer à autre chose. Maintenant, nous venons de constater qu'un des bureaux où sont inscrits beaucoup de personnes n'a pas encore ouvert, ou du moins n'est pas encore doté du matériel électoral. Et les électeurs sont inquiets, ils se posent des questions. Alors, l'heure prévue pour l'ouverture des bureaux, c'était 6h du matin. Nous, à 6h, on était au 8e arrondissement. Vous savez, on peut toujours prévoir de démarrer une activité à une heure précise et sans avoir les moyens de le faire.
Alors que des contestations commencent déjà à naître, le chef de mission de l'Observation électorale de l'Union africaine assure qu'au stade actuel, aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité de ces élections.
Ah oui, absolument, absolument. Je n'ai pas encore un élément qui me permette de croire que ces élections ne sont pas crédibles. Je pense que les élections sont parfaitement crédibles.
Les résultats partiels du scrutin présidentiel sont attendus dans les 6 prochains jours selon le code électoral avant la proclamation finale par la Cour constitutionnelle de transition dans les 15 jours suivant la date du vote. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Direction la République démocratique du Congo, où des voix discordantes se font entendre au sujet du fameux dialogue politique. Le Parti des démocrates pour le développement du Congo, le PDDCO, estime que ce forum ne devrait pas être le lieu pour évoquer les modifications de la Constitution. Pour ce parti, il devrait plutôt s'agir d'une nouvelle transition qui permettrait des élections apaisées dans le pays. Eddy Sango a joint l'un des dirigeants du PDDCO, Thomas Mamona.
Non, nous n'acceptons pas qu'il y ait la possibilité de prolonger parce que nous savons que dans le dialogue, on va beaucoup discuter sur le préparatif des élections en 2016.
Il y a eu un schéma presque similaire dans le Congo, Brazzaville voisin, où on a convoqué les dialogues et l'objectif du dialogue était les calendriers électoraux, le financement des élections. Et finalement, une majorité s'est dégagée à la fin du dialogue pour dire qu'on devait modifier la constitution plutôt et permettre au président de rester et de briguer un troisième mandat. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit les mêmes même schéma.
Au Congo Brazza, avant de passer au dialogue, le président lui-même s'était déclaré qu'il veut encore briguer un troisième mandat. Mais pour nous, au Congo, M. Joseph ne s'est pas encore déclaré cela. Nous savons que dans le dialogue, les Congolais ne peuvent pas être d'accord à ce monsieur de prolonger son mandat.
Les évêques qui expriment des inquiétudes, notamment sur le dialogue, demandent que tout se fasse dans le respect de la Constitution, expriment des inquiétudes quant aux élections, au blocage électoral. Quel est votre avis par rapport à ça?
Nous savons que lorsque nous allons entrer dans les dialogues, on va évoquer les problèmes sur les préalables électoraux, parce qu'on ne peut pas passer aux élections sans des préalables.
Mais qui devait résoudre ces préalables-là?
C'est les Congolais ensemble, ce n'est pas seulement le président de la République. Et alors, les politiciens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient à cela. Ils s'étaient venus se présenter, maintenant commencer à discuter sur la révision des constitutions au moment où le président n'a pas encore déclaré ça. Il devrait commencer à déclarer les préalables électoraux au moins 2 ans avant. Il y a encore une année en cours.
Moins d'une année.
C'est pas moins d'une année. Moi, c'est le nom, nous disons qu'il y a encore une année. Et il y a encore du temps de préparer ça.
Les élections doivent se tenir avant octobre, ou plus tard en octobre.
Non, nous ne sommes pas d'accord avec l'avis de passer aux élections en 2016, puisque nous devons d'abord passer au préalable, quand même, pour qu'il y ait des élections apaisées, puisque les Congolais ont besoin des élections apaisées.
Donc, vous acceptez que les gouvernements puissent rester au-delà de 2016?
Pas les gouvernements puissent rester au-delà de 2016. Nous acceptons qu'il y ait des préparatifs des élections afin d'arriver aux élections apaisées.
Mais qu'est-ce que vous dites des menaces que fait le président ou le gouvernement à ceux qui ne vont pas participer au dialogue ou à tous ceux qu'on accuse de préparer des insurrections contre le pays?
Vous savez que notre pays est un pays qui a toujours eu des insécurités totales, surtout à l'est du pays. Une fois autorisées les manifestations, ça occasionne aussi, je ne sais pas, les gens de mauvaise volonté, ils s'en profitent de ça pour faire d'autres problèmes, alors qu'ils peuvent causer des dégâts, soit humains ou matériels. Et ça n'a pas encore eu lieu, ça n'a pas de sens à ce moment sur les manifestations au Congo, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà bousculé la Constitution.
Thomas Mamona, un des dirigeants du PDDCO, le Parti des démocrates pour le développement du Congo.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Retour sur l'année 2015 au Congo-Brazzaville. 2015 a été une année marquée par de graves incidents dus à la modification de la Constitution permettant au président Denis Sassou Nguesso de se représenter à la tête du pays une nouvelle fois. Plusieurs acteurs politiques du pays reviennent sur cet événement, tandis que d'autres analystes évoquent plutôt le succès des 11e Jeux africains que la capitale congolaise a accueillis. De Brazzaville, la correspondance de Nguelan Goussou.
L'année 2015 aura été marquée par un événement majeur, le référendum constitutionnel du 25 octobre. L'ancien ministre Alain Akwala salue ici une avancée démocratique dans l'instauration d'un autre nouveau au Congo-Brazzaville.
C'est un événement majeur, un événement clé qui va marquer la fin d'un cycle et ouvrir un autre cycle, que je dirais une séquence qui pourra permettre l'émergence d'une nouvelle culture politique. Et là, bon, il y a eu un débat qui s'est engagé avec des positions contradictoires, parfois extrêmement marquées, avec le risque que nous avons vu le 20 octobre, où il a failli avoir quelques dérapages, quelques échauffourées, dans une situation un peu de confusion politique, sociale dans le pays.
Une analyse battue naturellement en brèche par l'opposant Clément Miarassa, qui garde du triste souvenir de l'année qui s'achève.
Moi, ce qui m'a réjoui, c'est l'illustration qui a été faite à la population qui n'a pas voté de ce que le pouvoir est prêt à tout faire avec des résultats qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Et contrairement à ce que le pouvoir pensait, ce référendum n'a pas résolu les problèmes. Bien au contraire, c'est pour ça que nous conseillons et nous avons conseillé aux populations congolaises de lire et de relire cette constitution pour bien se rendre compte qu'il n'y avait vraiment pas nécessité de changer la constitution et que cette démarche n'a fait qu'enfoncer davantage le Congo dans une crise profonde et c'est regrettable.
Sur le plan social, l'enseignant Serge Kalat revient sur de graves incidents qui ont émaillé le lycée congolais lors de l'annulation des épreuves du baccalauréat.
Ils ont commencé par casser les tables bancs, brûler les pneus, agresser même certains enseignants qui se sont présentés au site parce que tout le monde n'était pas informé à temps que l'examen était annulé.
2015, l'Afrique s'est aussi retrouvée à Brazzaville dans le cadre des 11e Jeux africains et le journaliste sportif Guy Saturné Mawungu de la Semaine africaine rappelle le succès qu'a connu cet événement.
Bien sûr, c'est un événement exceptionnel et ça a été vraiment une belle réussite. Tous ceux qui sont arrivés à Brazzaville sont d'avis qu'on a vécu vraiment de bons moments. Des scènes sublimes à l'ouverture comme à la clôture. Le Congo a rattrapé quand même un retard du point de vue des infrastructures. Aujourd'hui, on peut dire que le site de Kintil est le plus grand au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et Brazzaville est peut-être l'une des rares villes qui dispose d'un grand nombre de salles de sport. Hein, ça n'arrive pas dans beaucoup de capitales africaines.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Le 8 janvier 2010, alors que la délégation togolaise se rendait en Angola pour prendre part à la phase finale de la CAN, le bus qui transportait l'équipe nationale a été pris pour cible par des séparatistes de l'enclave de Cabinda. Deux personnes ont été tuées et l'ancien gardien de but de l'équipe togolaise, Kojovi Obilale, lui y a laissé sa motricité et donc sa profession. Il vient de sortir un livre titré « Un destin foudroyé » dont la dédicace a été faite ce mardi à Lomé. Reportage de notre correspondante Kay Lawson.
C'est à travers un récit autobiographique que l'ancien gardien de but des Éperviers partage comment sa carrière de footballeur a été détruite par un acte terroriste. Paru aux éditions Talent Sport, « Un destin foudroyé, un footballeur dans l'enfer du terrorisme » est une œuvre thérapeutique à en croire son auteur.
Ne pas faire ce livre serait une grande erreur de ma part parce que d'un côté, ça me permet d'extérioriser et aussi de déposer mes bagages, comme on le dit. Parce que tout ce que j'ai traversé, mon enfance, la famille, le monde de l'handicap, les voyages, les agents, le football en général. Donc pour moi, partager ce combat avec mes jeunes frères me permet un petit peu de faire le deuil de mon accident. Sans Cabinda, je ne serais pas là.
L'autobiographie de Kojovi Obilale retrace son parcours de jeune footballeur à la recherche de gloire, mais qui est tombé sous des balles terroristes le 8 janvier 2010 à Cabinda, en Angola. La critique littéraire Marthe Faré a lu l'ouvrage.
En 2010, Kojovi Obilale est sélectionné pour la CAN en Angola. Durant le trajet, l'équipe tombe dans une embuscade tendue par un groupe rebelle pro-séparatiste cabindais. Touché au lombaire, il a perdu l'usage de ses jambes. Son rêve footballistique s'envole. C'est la descente aux enfers, un destin foudroyé. La douche froide, il la reçoit à plusieurs niveaux. Une fédération togolaise de football pour qui il devient un problème insurmontable qu'on ne voulait plus voir, un fardeau comme il écrit lui-même.
Le président du comité de normalisation de la fédération togolaise de football, présent à la soirée dédicace, s'est senti interpellé et a dû présenter des excuses à l'ancien sociétaire de Pontv, Horacio Freitas.
Je voudrais très solennellement et très officiellement présenter des excuses au nom de cette fédération de football.
Kojovi Obilale dit que la fédération a failli. Et moi, au nom de la fédération, je ne pouvais que réagir spontanément pour présenter les excuses au nom de la fédération. Je suis moi-même un athlète aussi. Et si j'avais vécu ce qu'il a vécu comme athlète togolais qui a subi des balles dans le corps, et si je pense que la fédération a failli, eh bien, je le dirais aussi.
Reconverti en éducateur spécialisé pour jeunes déscolarisés en difficulté, Kojovi Obilale n'est pas loin du terrain de football. Il déclare que l'attaque de Cabinda n'a pas eu des incidence que sur sa vie professionnelle.
Ça a été vraiment difficile pour mon fils. Il était vraiment traumatisé. Il ne m'approchait plus pendant 6 mois. Moi, je lui ai expliqué, je ne peux plus faire du football, mais papa, il peut faire autre chose. Les conséquences sur la vie privée, séparation, perte d'amitié. Avec mes coéquipiers, c'était fraternel avant. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que je ne fais plus partie de ce wagon. Le train est parti, je suis descendu de ce train. Donc aujourd'hui, le reste qui arrive pour moi, c'est un bonus.
C'est pas une vente aux enchères du livre « Un destin foudroyé » qu'a pris fin la soirée dédicace.
Un destin foudroyé, Kojovi Obilale, un footballeur dans l'enfer du terrorisme.
10 000 francs.
20 000.
20 000, qui dit mieux?
30 000.
30 000.
40 000.
40 000 francs. 50 000 francs. 50 000 francs une fois. 50 000 francs deux fois. 50 000 francs trois fois. Un destin foudroyé, 50 000 francs pour monsieur.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. Kevin Fowler était à la console. Présentation, Anne Alberson et Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24 heures sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.